Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Saint Paul, Saül qui s'est converti, Saint Paul qui est très important dans le Nouveau Testament puisqu'on y trouve plusieurs lettres de lui et qui a joué un rôle fondamental dans le christianisme, au début du christianisme. Et pour nous en parler aujourd'hui, Alain Gignac, professeur titulaire à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Bienvenue, Alain Gignac.
Bonjour, madame.
Saint Paul, parlez-nous de son importance d'abord au début du christianisme.
Saint Paul est important pour deux raisons. La première, c'est que c'est un homme plein d'énergie. Il a brassé beaucoup d'air à son époque. Il s'est beaucoup démené. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il met ses statistiques dans
à
une
jour,
de ses lettres.
À jour.
Oui, oui, oui. J'ai fait X naufrages. J'ai été deux fois lapidé ou trois fois, je ne sais plus trop combien. Là, je ne connais pas les statistiques par cœur. Mais il est amené un peu à se défendre auprès de ses chers Corinthiens. Et il voulait montrer qu'il en avait fait beaucoup. Donc, c'est un hyperactif au plan de la mission, de porter l'Évangile. Mais finalement, historiquement, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose au sens où il a fondé quelques communautés de base, des petits groupes, des petites églises. Hein. Corinthe, c'était au début, quoi, 50 personnes. Mais il a montré l'exemple qu'il fallait semer l'Évangile partout. Et surtout, ça a été quelqu'un qui a insisté sur le fait que, puis ça a été un gros débat au début de l'Église chrétienne. Est-ce qu'il fallait garder la manière de vivre juive pour être chrétien? Puis pour lui, ça a été très clair, bien que lui soit juif, profondément juif, pharisien, il dit, fils d'hébreu, donc il parlait à la fois le grec et l'araméen ou l'hébreu. Alors, il était très juif, mais il avait la conviction que le Messie d'Israël, Jésus, crucifié, faisait éclater un peu les cadres culturels et expansionnait l'élection à toute l'humanité. Donc, c'est à cause, en partie, de Paul que les chrétiens ont pris la décision qu'on pouvait être chrétien, donc disciple du Messie, sans pour cela suivre la manière de vivre, avoir une identité juive avec la nourriture cachère, avec le Shabbat, avec la circoncision, par exemple. C'était ces trois choses dans l'Antiquité, à l'époque de Paul et aujourd'hui, ce sont des marqueurs identitaires très forts pour les Juifs. Mais, cela dit, donc, la deuxième raison pour laquelle Paul est si important, ce sont ses lettres. On s'imagine pas le temps, l'argent pour acheter le papyrus, pour avoir un scribe, pour le payer. Le temps qu'il fallait pour penser, pour écrire le brouillon, pour écrire le propre, pour envoyer ses lettres. Il a beaucoup investi dans ses lettres. Et ses lettres sont les premiers mots de la foi. C'est ça qui a fondé le christianisme avec les évangiles. Alors, souvent, on pose la question, imaginez, si on avait seulement les évangiles, qu'on n'avait pas les lettres de Paul, qu'est-ce qu'on manquerait? On peut aussi inverser la question. Si par hasard, on n'avait pas eu les évangiles et qu'on avait seulement les lettres de Paul, qu'est-ce qui nous manquerait? Alors, il y a comme un équilibre, il y a deux manières d'appréhender, je dirais, la foi chrétienne. Il y a le narratif des évangiles qui met en scène l'enseignement de Jésus et le destin de Jésus de Nazareth jusqu'à la croix et la résurrection. Et les lettres de Paul, c'est la première interprétation du christianisme. On a dit la semaine dernière que les premiers mots de la foi, ce sont pas les évangiles du côté chrétien, mais ce sont les lettres de Paul. Et donc, dans l'espace d'une décennie, entre l'an 51 à peu près, et là on est sûr de l'an 51, mais la lettre aux Romains probablement autour de l'an 57. Là. Vous voyez, c'est même pas dans les lettres de Paul, c'est même pas 10 ans de travail, mais ce sont les premiers mots de la foi. Paul, Il ne faisait pas de théologie, mais il recevait les problèmes de ses communautés, puis il essayait de trouver des réponses. Donc, il essayait de mettre des mots sur son expérience spirituelle en relisant sa conviction que Jésus était ressuscité. Il essayait de réfléchir puis de penser concrètement qu'est-ce que ça a comme impact sur la vie chrétienne, sur les communautés. Et il relisait aussi, parce que c'est quelqu'un qui avait une formation aussi. Parmi tous les premiers disciples du Christ, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient beaucoup de formation. En tout cas, c'est certain que les apôtres galiléens étaient des rustres. Ils ne savaient pas écrire. Mais on s'aperçoit qu'un évangéliste comme Luc, comme Matthieu qui est pas... On le rattache aux disciples de Jésus, mais celui qui a écrit Matthieu, c'est un scribe juif qui était formé. Alors, Paul était de ces gens qui n'étaient pas nombreux, qui avaient appris à lire et à écrire. C'est un pharisien. C'est un peu anachronique, mais dans le fond, il avait fait des études rabbiniques, entre guillemets, là, je mets des guillemets parce que ça va venir après, à partir du 3e siècle chez les Juifs, les rabbins. Mais Paul avait une formation, puis il avait aussi une formation rhétorique. Il était allé probablement à l'école grecque. Donc, il y avait un vernis de rhétorique, plus qu'un vernis. Il connaissait. Donc, en mettant ça par écrit, ça l'a donné comme un corpus de mots pour dire la foi, les premiers mots de la foi, mais c'est quand même très articulé, mais c'est pas de la théologie, hein. C'est Paul qui réfléchit, je dirais, à haute voix. Puis en fait, les lettres sont pas une improvisation non plus. Les lettres de Paul, j'ai montré dans mes recherches, par exemple, que dans la lettre aux Romains, il est fort probable qu'à bien des endroits, il réutilise du matériel qu'il avait, je dirais, mis au point à travers les années, à travers toutes ses prédications à gauche et à droite en Grèce et en Asie mineure.
Alain Gignac, retournons au début. Vous avez dit Paul, d'abord c'est un juif, il s'appelle Saül dans le livre des Actes des Apôtres d'abord. Il a une formation importante, il est pharisien. Qu'est-ce qu'on sait de lui avant sa rencontre avec le Christ ressuscité? Qu'est-ce qu'on connaît de lui?
Ben, finalement, on ne connaît pas grand-chose. Il y a deux sources. Les deux sources qu'on a sur Paul, ce sont les Actes des Apôtres qui sont écrits après sa mort, mais peut-être de deuxième, troisième génération du christianisme. Luc le dit lui-même dans ses deux prologues, dans Luc, puis dans les Actes des Apôtres, je me suis informé. Moi, j'ai pas été témoin oculaire, mais je suis allé voir les témoins oculaires pour les entendre. Les Actes des Apôtres et les lettres, c'est les deux sources qui nous permettent de reconstruire une biographie de Paul. Et dans les lettres, Paul ne dit pas grand-chose de lui-même. Finalement, il est très pudique. On va peut-être revenir tout à l'heure sur son expérience spirituelle fondamentale. Là-dessus, il en dit pas beaucoup. Mais des fois, il se laisse aller lorsque c'est pertinent pour faire avancer ses communautés, pour répondre à certaines questions, ou quand son leadership est un peu remis en question parce qu'il faut voir que les lettres, c'est une communication à distance. Hein. Donc, Paul est loin de sa communauté. Il reçoit des nouvelles. On n'a pas Internet, là. Hein. C'est pas la communication instantanée. Et il essaye de répondre. Puis, des fois, il est plus ou moins bien informé. C'est quoi le véritable problème? Bon. Alors, son leadership a été souvent remis en question par les Galates, par sa communauté corinthienne, qui était un peu ses chouchous, mais il était un peu turbulent, les Corinthiens. Alors, puis peut-être que, enfin, une communauté, à un moment donné, a bien le droit de contester son fondateur. Mais Paul, c'est souvent en défendant son leadership qu'il va laisser aller des bribes d'informations. Alors, voilà. Mais ce qu'on sait quand même, en regardant surtout ce qu'il a écrit, c'est qu'on sait, c'est assez évident, que d'une part, il est bilingue, il est de deux cultures, il est grec et juif. Il parle grec, il parle araméen. Je l'ai dit tout à l'heure, il fait de la rhétorique, il y a une formation là-dedans, ça paraît dans ses lettres. Il y a une formation aussi à la lecture juive de la Bible. Et il dit lui-même, je suis pharisien. Il l'a dit à deux ou trois reprises dans ses lettres. Donc, Paul était vraiment, il se présente à deux reprises comme le persécuteur de l'Église chrétienne. Il était, on ne sait pas trop pourquoi, il était contre les chrétiens. Il faisait partie peut-être de la branche pharisienne qui était un peu zélée.
Un peu radicale.
Un peu radicale, voilà. Je ne sais pas si vous m'amenez sur un terrain de radicalisme.
Mais il semble ne pas... il ne remet pas en question le fait qu'il persécutait, en tout cas, l'Église, puis qu'il était parmi peut-être les meilleurs là, à le faire.
Ben, fait, c'est parce qu'il le dit pour mettre un peu, de façon dramatique, en scène, son appel, ce qu'on appelait la conversion. Mais, encore là, comme j'ai dit tout à l'heure, il est un peu sur la pointe des pieds. Il en parle, mais sans en parler beaucoup. Alors, pour lui, c'est pas une conversion. Pour lui, c'est que il y avait une trajectoire, puis là, il a comme été dévié de sa trajectoire pour prendre une nouvelle trajectoire et pour être appelé de façon presque prophétique. Il reprend un peu les mots du prophète Jérémie. « Dès le ventre de ma mère, Dieu m'avait choisi. » Donc, il se sent choisi, il se sent appelé, et c'est très clair, en fait, selon son témoignage. Est-ce que c'était clair si rapidement dans son propre discernement? Mais dans ses lettres, c'est instantané, dès ce qui s'est passé à Damas, parce que ça s'est passé à Damas, cette prise de conscience qu'il fait, eh bien, il est appelé à être envoyé vers les païens, vers les non-juifs. Bon. Dans les Actes des Apôtres, c'est raconté trois fois. C'est raconté d'abord par le narrateur,
Luc,
et c'est raconté deux fois par le personnage Paul des Actes des Apôtres. Donc, c'est raconté trois fois, de trois manières différentes, avec pas les mêmes détails. Ça se contredit peut-être même à certains endroits. Et on se méfie aujourd'hui. Enfin, il y a deux clans parmi les spécialistes de Paul. Il y a des gens qui font toujours, des gens qui sont diplomates et qui essaient de concilier les lettres avec les Actes des Apôtres. Bon, mais les Actes des Apôtres, c'est la vision de Luc. C'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil un peu. Généralement, dans les Actes des Apôtres, ça va assez bien. Il n'y a pas trop de conflits. On sent que Luc est un diplomate, puis il n'y a pas eu de chicane entre Pierre et Paul. Tout le monde s'est bien entendu. Il y a peut-être certaines tensions. Alors, il y a l'autre groupe des spécialistes de Paul qui disent, ah, on met les Actes des Apôtres de côté. C'est sûr que c'est pratique, les Actes des Apôtres, parce que ça nous donne un cadre chronologique. C'est là qu'on raconte les voyages. C'est difficile de faire une vie de Paul et une chronologie sans les Actes des Apôtres, vous voyez. Parce que si on avait juste les lettres de Paul, ce serait difficile de dire quand est-ce qu'il a fait ses voyages, c'est quoi la première fois qu'il est allé à Corinthe. Des fois,
il ne met pas de date.
Non, c'est ça. C'est comme ça qu'on est capable d'ailleurs c'est en croisant les Actes des Apôtres et la première lettre aux Thessaloniciens et une inscription gréco-romaine, c'est comme une triangulation, qu'on peut dire que la première lettre de Paul, la première aux Thessaloniciens, a été écrite en 51.
À La question d'aujourd'hui, nous recevons Alain Gignac, professeur titulaire à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Nous parlons de Paul, de Saint-Paul. On en était à un peu comment Paul présente lui-même son changement de direction. Il est pharisien, il persécute l'Église, et là, il devient chrétien. Est-ce que ça s'est passé rapidement? Qu'est-ce qu'on sait de cet événement-là, de cette rencontre avec le Christ ressuscité?
Ben, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, il y a une narrativisation, il y a une manière de raconter dans les Actes des Apôtres de Luc. Mais je dirais que ça, c'est la vision de Luc qui imagine un peu ce qui s'est passé. Quant à Paul, il n'en parle presque pas. Mais moi, je serais porté à dire que c'est surtout la lettre aux Galates où il en parle. Parce que là, il veut montrer aux Galates que l'essentiel, c'est la foi en Jésus. Dans le fond, c'est comme si Paul avait fait une expérience messianique, que c'est Jésus vivant qui réalise les promesses d'Israël. Et Paul est comme submergé par ça. Mais il n'en parle tellement pas. Mais on sent bien dans la lettre aux Galates que, enfin, il va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, il y a toute cette identification entre le crucifié ressuscité et l'être humain Paul qui, il va dire, je suis co-crucifié avec le Christ. Je suis co-crucifié. Alors, donc, dans la spiritualité de Paul, on est associé au destin du Messie, Jésus de Nazareth. Et on participe à sa mort et à sa vie. Et la mort, pour Paul, c'est le monde ancien. Paul était un pharisien qui avait probablement, c'était un peu la philosophie, la théologie, la vision du monde pharisienne de l'époque, elle était ce qu'on appelle apocalyptique. C'est-à-dire qu'on pensait que le monde pourri dans lequel on vit, où le mal domine, l'actualité nous le démontre amplement, allait être remplacé de façon radicale. On espérait que Dieu intervienne pour faire le ménage, puis radicalement recréer le monde, presque. Pour Paul, le destin de Jésus, comme Messie, crucifié, mais ressuscité par Dieu, ça montre que Dieu vient d'intervenir pour changer le monde. Donc, Paul prêche une nouvelle création. Il va souvent dire à ses disciples, à ses communautés, vous êtes une création nouvelle. Vous êtes une créature nouvelle. Dieu fait du radicalement neuf. C'était la conviction de Paul. Alors, c'est un peu ça qui se joue à Damas. Et on voit bien que dans la lettre aux Galates, le Christ devient central. Donc, christocentrique. Paul met le Christ au centre et s'identifie au Christ et il participe à la vie du Christ. Ou une autre manière de le dire, c'est l'expérience du souffle qui est si importante dans toutes les lettres. Parce que Paul et ses disciples, ses communautés chrétiennes, ont fait l'expérience du souffle. Nous, on parle souvent de l'esprit, mais le mot grec, c'est le souffle. C'est une meilleure traduction parce que ça le dit bien, c'est que Jésus ressuscité communique sa vie en nous donnant un nouveau souffle, en nous donnant du souffle. Alors, on a deux respirations. On a la respiration naturelle pour Paul et on a la respiration spirituelle. Et lorsque je dis, alors l'expérience chrétienne fondamentale, et ça transparaît chez Paul, c'est la prière du Notre Père. Lorsque je suis capable de m'adresser à Dieu en vérité, en l'appelant Père, Et c'était la prière aussi de Jésus. Mais en faisant ça, vous voyez, j'ai besoin d'un souffle pour que ça sorte de mes poumons et que ça passe par mes cordes vocales et que ça s'exprime par ma voix. Notre Père. C'est-à-dire que nous sommes fils et filles de Dieu par l'action, par le destin du Messie Jésus. C'est ça l'expérience spirituelle chrétienne chez Paul. Vous voyez, même la Trinité, elle est là, mais elle n'est pas conceptualisée. C'est pas une affaire, je dirais, mathématique. 1 plus 1, plus 1 égale 1.
Égale 1, 3 qui devient 1, oui.
Ouais. C'est pas ça du tout. Il y a rien de conceptuel. C'est quelque chose d'existentiel. C'est le Christ prend toute la place et je participe à la vie du Christ. Paul va dire souvent, avec une espèce de jeu de métonymie, le Christ est en moi, mais moi je suis en Christ. Ou il va dire, je vais revêtir le Christ comme je revais mon manteau. Hein? C'est-à-dire, quand je mets mon manteau messianique, je suis dans le Christ. Hein? Et le Christ est en moi aussi. Il y a les deux parce qu'avec le souffle, hein, le souffle de Dieu est en moi. Je suis animé d'une nouvelle vie.
Alain Gignac, est-ce que ce que vous venez de nous dire, donc le Christ ressuscité qui est central chez Paul, explique pourquoi Paul ne parle pas beaucoup dans ses lettres du Jésus de l'histoire?
Mm-hmm. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit qu'est-ce qui nous manquerait si on n'avait pas les évangiles. Alors, c'est sûr que lorsqu'on lit Paul, on n'a pas la vie de Jésus, sauf qu'il est mort et ressuscité. Si on lit les lettres de Paul, on n'a pas l'enseignement de Jésus. On n'a pas le sermon sur la montagne ou le sermon dans la plaine. On n'a pas les paraboles. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a besoin des évangiles, puis on a besoin de Paul. Je dirais que les évangiles, ça nous donne l'enseignement de Jésus. Puis ça nous donne le destin de Jésus. Mais Paul, ça nous donne l'expérience spirituelle. Ce que les disciples ont peut-être de Galilée, ont peut-être vécu en suivant Jésus de Nazareth.
Pourquoi est-ce que ça a été si long pour que les apôtres, ceux qui ont suivi Jésus de Nazareth, acceptent Paul? Il y a eu des difficultés. Barnabé a dû intervenir pour que Paul rencontre les apôtres, soit reconnu par les apôtres.
Mm-hmm. Jésus est mort probablement en l'an 30 et on situe l'appel de Paul, la vocation de Paul quand il est devenu disciple du Messie vers l'an 34-35 à peu près. Mais il faut bien voir que les premiers chrétiens connaissaient Paul comme un persécuteur. Alors, ça a quand même été un retournement, tu sais. Du point de vue de Paul, c'est pas un retournement, d'une certaine manière. C'est un zèle qui se réoriente. Mais du point de vue des autres chrétiens, c'est tout un retournement. Alors, ça le prend un certain temps, peut-être, à ce que Paul soit accepté. Mais ensuite, durant sa carrière pastorale, ou durant tous ses voyages missionnaires, contrairement à ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, on s'aperçoit lorsqu'on étudie ça de façon plus historique qu'il n'y avait pas d'unanimité dans les premiers chrétiens. Chacun faisait un peu son affaire. L'unité s'est faite, non pas au début, mais de manière synodale, en chemin. Hein, en chemin, l'Église a commencé à s'uniformiser vers les 3e, 4e siècles. Mais au début, il y avait un marchand qui arrivait à Alexandrie, qui parlait de sa nouvelle foi, puis ça rayonnait. Vous voyez, ça s'est fait de façon non programmée. On a l'impression qu'avec les Actes des Apôtres, que l'évangélisation passe de Jérusalem à Rome de façon stratégique. Ça s'est pas fait comme ça. Et, bien sûr, il y avait une grande diversité. Alors, il y avait des gens, il y avait au moins 3-4 grande orientation, je dirais, au début du christianisme. Il y avait Paul, il y avait Pierre qui était un peu au milieu. Un bonhomme comme Étienne, dans les Actes des Apôtres, est un peu le représentant d'un certain radicalisme. Et il y avait Jacques qui était le frère de Jésus, et qui lui voulait qu'on reste fidèle à la tradition juive et, je dirais, au mode de vie juif. Et donc, il y a eu des tensions. Et Paul a été contesté. C'est qu'il n'y a pas juste Paul qui se promenait pour fonder des communautés. Il y en a d'autres qui arrivaient avant lui ou après lui. Par exemple, il y a un certain Apollos, dont on ne connaît pas grand-chose par ailleurs, mais on sait qu'Apollos était aussi ce genre. Il n'y avait pas juste Paul qui se promenait dans l'Empire romain pour évangéliser. Et donc, il y a eu des conflits. D'ailleurs, les Actes des Apôtres, même s'ils sont très diplomatiques, rapportent quand même un conflit qui a eu lieu à cause des chrétiens d'Antioche, qui est une des grandes capitales de l'Empire romain, une des grandes métropoles. Et donc, ils se seraient réunis à Jérusalem pour régler le différend, pour régler la chicane. Mais ce qui est drôle, c'est que il y a une version dans les Actes des Apôtres, puis il y a la version de Paul dans la lettre aux Galates. C'est un petit peu
différent.
On voit qu'il y a la notion de point de vue est bien illustrée par ces deux récits.
C'est un peu comme les familles. Si chacun se mettait à écrire l'histoire de la famille, il y aurait des nuances et des perceptions différentes. En terminant, il nous reste une minute, Alain Gignac. Si je vous demandais, on veut lire Paul, on commence par quelle lettre?
Moi, je commencerai par la lettre aux Philippiens. Elle n'est pas trop longue. C'est la lettre de la joie. La joie. Parce que cette vie que Dieu nous donne en abondance, cette conviction qu'on est les enfants bien-aimés de Dieu, ça nous remplit de joie. Puis il faut avoir la joie. Puis être ensemble en communauté, c'est plein de joie. Alors, on a l'impression que la seule communauté avec qui il n'y a pas eu de problème, c'est la communauté de Philippe. Et donc, ces chers Philippiens. Puis il y a des très beaux morceaux, dont un célèbre aussi hymne, un poème, qui n'est peut-être pas de Paul, que Paul peut-être fait un copier-coller. Mais c'est l'hymne de Philippiens où on parle du destin de Jésus, mort ressuscité.
Un grand merci Alain Gignac de nous avoir parlé de Paul. Vous êtes professeur titulaire à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Lisandre Duplé pour Radio-VM et Yannick Caron pour Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission de Questions d'aujourd'hui. À bientôt.